Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais souhaiter un Saraf Torkom à tous les musulmans et par la même occasion, leur souhaiter un bon mois du Ramadan. Donc, ce soir, de nouveau, on se retrouve avec Laurent pour les chroniques. Hop. Salut Laurent!
Bonsoir, Wari. Bonsoir, bonsoir. Tu vas bien?
Très bien, merci. Content de te retrouver.
Eh bien oui, le Ramadan se passe bien?
Écoute, très bien. On a commencé donc hier. C'est le deuxième jour, hein. Ça y est, on prend le rythme. Donc c'est parti pour un mois donc de jeûne. Et j'en profite
D'accord.
par la même occasion. C'est l'occasion de se rapprocher de notre Créateur.
Ouais. D'accord.
Voilà, donc ce soir,
Allô,
on aura pas
allô?
mal de sujets à... Oui, tu m'entends, Laurent?
Ouais, je t'entends bien, oui.
Oui, je disais ce soir, donc, on aura pas mal de sujets à traiter encore. Une
Oui.
actualité très chargée. Laurent, je crois qu'il y a un petit problème de son. Tu m'entends bien?
Oui, je t'entends très bien.
D'accord, il y aura peut-être un petit décalage entre nous. Donc, écoute, on va y aller. On va commencer par traiter différents sujets ce soir. Par où tu veux commencer ce soir, Laurent?
Eh bien, en fait, on va avoir un sujet de fond, c'est-à-dire que, bon, ben, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, donc on va y revenir un peu moins, mais on va quand même y revenir, c'est-à-dire que déjà, on va parler d'une chose qui concerne véritablement, qui est au cœur, bon, on l'a vu, de l'actualité ukrainienne, parce que c'est un pays au centre, qui est un État khazar. Au centre, on a vu ça la semaine dernière, donc d'une dictature en préparation, hein. Et donc, pour bien comprendre tout ça, pour bien comprendre le monde des tunnels, pour dire le mot comme il est, on va traiter, d'un sujet qui est principal pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc on est vraiment dans de l'actualité, mais pas de l'actualité, on va dire, qui se fait de manière habituelle, bien entendu. C'est-à-dire que, bon, mais quand on parle de l'information, il faut aussi traiter de l'information, bon, de la géopolitique, mais aussi de l'information qui n'est pas exposée et expliquée, pourquoi elle peut être vraie, qu'est-ce qui la rend sérieuse. Et qu'est-ce qui la rend essentielle pour l'analyse, effectivement, pour la compréhension de ce qui se déroule. Donc, on est obligé d'aller en profondeur. Et le sujet qui nous amène, c'est à travers, donc, avant de, c'est celui donc d'un géologue qui s'appelle Phil Schneider, qui a été certainement assassiné, c'est toujours pareil, et qui parle de bases souterraines secrètes, parce que lui, il y a travaillé. Et il dit qu'elles sont habitées par des extraterrestres. En fait, il faut comprendre par des démons. Je vais expliquer tout ça. Et si on comprend ça, et c'est le but en partie de cette soirée, on peut comprendre, et on va comprendre toute l'actualité qui se déroule aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe dans les souterrains, tout se passe avec des entités, il faut les définir et il faut apporter les preuves de ces entités-là. Et c'est ce qu'on va faire d'une manière donc très sérieuse. Ça va nous amener très loin parce qu'on va parler du nucléaire, du danger du nucléaire qui est un mensonge énorme. Donc on va parler de beaucoup de choses à ce sujet-là. Donc on va dire ça, c'est le sujet de fond. Et ensuite, donc on va revenir d'une manière, on va dire un peu particulière. On va parler donc de l'Ukraine puisqu'il y a un rapport, on va dire, qui est secret, où Israël reconnaît que les Juifs sont en fait des Khazars et qu'il y a un plan secret de migration vers l'Ukraine, donc des Juifs vers l'Ukraine. Et ça, c'est lancé par, pas par un truc antisémite ou quoi au cas, c'est par le Times of Israel le 16 mars 2014. Et on va voir une chose qui est complètement incroyable. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, C'est une revanche, on va dire, une revanche non, mais en tout cas, l'Ukraine des Khazars, ils nourrissent en fait une revanche contre la Russie qui avait détruit leur plan au XIe siècle. Et donc, 9 siècles après, ou 10 siècles après, on en est toujours là, c'est-à-dire qu'il y a une vengeance, les Khazars veulent se venger et attaquer la Russie. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et ça, je me répète, c'est le Times of Israel qui le dit, tout simplement parce que la Russie avait détruit donc l'Empire Khazar et dispersé les Khazars donc à travers toute l'Europe au XIe siècle. Et donc ils sont en train de vouloir reconstruire, de recoloniser cet État Khazar. Et donc on va voir tout ça. Voilà. Là aussi, encore une fois, on est dans le cœur de l'actualité avec un journal, donc Times of Israel. On ne pouvait pas mieux faire pour expliquer, on va dire, ce qui se déroule à l'heure actuelle. La Corée du Sud, explosion des décès, apparition du sida dû au vaccin. On va voir ça à travers donc un journal autrichien que j'aime bien prendre en référence qui s'appelle Wochenblick et on va dire un député Gerald Hauser en Autriche donc qui expose tout ça, c'est-à-dire qu'en fait on voit un taux de mortalité énorme qui arrive en Corée du Sud qui est un État qui a été sur-sur-sur-vacciné, en fait qui a eu ces 3 doses. J'en profite, je fais une parenthèse puisque c'est un ami. À propos de ça, qui traite par exemple, qui a, on va dire, une analyse très critique envers le personnel soignant sur VK, mais ça va déborder de sur VK parce qu'il a créé sa chaîne, donc on va le relayer. Il s'agit de quelqu'un donc qui attaque, on va dire, enfin attaque, qui critique le personnel soignant. C'est un, on va dire, voilà, quelqu'un qui a de très bonnes informations, etc. Allez sur mon site VK, vous verrez des vidéos de Mohamed Rifi qui parle très bien de ça, donc de tout ce problème, on va dire, avec c'est-à-dire la survaccination, la mort des patients, etc., etc. Donc allez sur mon site VK, vous verrez donc des analyses que cette personne donne. Vous pouvez aller sur son site aussi en même temps. C'est très, 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 très intéressant. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, le vaccin et le sida. Mais voilà, on va vraiment approfondir ce sujet-là. Le vaccin et le sida, qui aurait pu croire, effectivement, on voit bien qu'il y a une manigance. On va aborder le sujet du blackout à Londres, où il y a une panne qui s'est produite, donc, et qui a duré quelques heures. On avait déjà parlé dans ce cadre-là du blackout à Taïwan. Donc, on va parler de celui de Londres. Et on va finir par un sujet, ben voilà, qui nous intéresse parce que c'est notre avenir. C'est de l'inflation vers la famine, c'est-à-dire qu'on se dirige véritablement vers, en tout cas, une grande crise économique en Europe et de par le monde en Europe. Donc voilà les sujets qu'on va traiter, Wari. Voilà. Allô, Wari?
Oui, très bien. Alors, moi, j'étais en train de rechercher la personne que tu nous as citée, Mohamed Rifi. D'ailleurs, j'ai pas réussi à trouver. Si tu pouvais nous mettre le lien, qu'on puisse le partager.
Oui. Il faut aller sur mon VK, de toute façon, il faudrait que, attends, j'aille chercher sur l'ordi, bon, c'est pas. Attends, je vais essayer de
Bah, c'est
faire
pas grave,
ça.
on va le trouver, on le partagera au fur et à mesure de la soirée, pas de souci. Bah
RI
écoute,
2FB.
ok. Bah du coup, on va pouvoir commencer. Effectivement, il y a beaucoup de sujets à traiter là ce soir. Je crois que tu vas commencer sur le dossier alors, les
Voilà.
démons et les bases souterraines secrètes.
Voilà. Donc ça, c'est pour bien comprendre, parce qu'on va parler à un certain moment. Donc l'article est sorti, hein, je l'ai traduit en allemand et en russe. Donc c'est sur Profideia Catholica. Le livre phare, c'est Extraterrestres, les messagers du New Age, que j'aurais pu intituler, donc c'est un de mes livres, Extraterrestres, le mensonge Illuminati, en faisant référence donc au Rockefeller, qui travaille dans, on va dire, tout ce qui est mystère, crop circles, etc., OVNI, on retrouve les Rockefeller derrière tout ça. Alors les bases souterraines, on va comprendre, et on va comprendre par qui elles sont habitées et à quoi ça sert. Alors il y a un homme qui, je vais essayer d'être assez concret, rapide, parce que tout le monde pourrait y passer, on va dire, plusieurs heures. C'est Phil Schneider, qui est un géologue et qui est mort mystérieusement le 11 janvier 1996 à 49 ans, donc dans l'Oregon. Il est l'homme qui a révélé la conspiration des autorités américaines avec les extraterrestres. C'est comme ça qu'il les appelle, les extraterrestres. Et j'explique, hein, que les extraterrestres, c'est une appellation pour les idiots. Et ce sont en fait donc des démons. Et j'explique tout ça. Donc cette information prend toute sa valeur quand nous comprenons bien que les extraterrestres ne sont pas des démons, ne sont pas que les extraterrestres ne sont que des démons, pardon, qui ont pris donc cette forme d'extraterrestres. Ce piège est renforcé par la science-fiction servant à berner donc des personnes qui n'ont pas de repères. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la science-fiction est entre les mains des Illuminati pour contrôler les masses. Et donc, les Illuminati ont utilisé aussi la science-fiction dans un thème que j'expose, qui est particulièrement essentiel. Il s'agit du nucléaire, où on nous a menti. Je vais le démontrer très rapidement. Donc, c'est pour montrer l'enjeu du. Je fais un petit détour avec le nucléaire, ce thème-là, pour bien montrer que le nucléaire, ce n'est pas dangereux, contrairement à ce qu'on va nous faire croire, mais que c'est surtout l'énergie la moins chère. Et donc, il y a effectivement comment dirais-je, une reprise en main du lobby du pétrole qui ne peut pas permettre ça. Alors ça commence, on le voit, avec le syndrome chinois. Qui est un film de science-fiction qui apparaît en 1979. C'est un exemple que je prends pour revenir ensuite, hein, sur la science-fiction et expliquer, bon, mais ces histoires de démons et de bases souterraines présentées de manière erronée par des extraterrestres. Alors, petit détour avec le nucléaire. En 1979, donc, il y a un film de science-fiction qui s'appelle Le syndrome chinois. Et une semaine après, le 28 mars 1979, il y a la catastrophe, la première catastrophe nucléaire, comme par hasard, qui arrive une semaine après le film Le syndrome chinois, qui parle d'une catastrophe nucléaire. On va dire c'est ballot, mais c'est comme ça. Donc c'est la catastrophe de Three Mile Island qui se produit le 28 mars 1979, une semaine après la sortie de ce film de science-fiction sur aussi une catastrophe nucléaire. Donc, il faut bien comprendre que le nucléaire est l'énergie fossile la moins chère. 30 euros serviraient pour couvrir les besoins énergétiques d'un homme pour toute sa vie. Le nucléaire, nous dit-on, détruit la nature pendant au moins 200 000 ans. C'est ce qu'on entend au Hari d'une manière assez, voilà, symptomatique. Et on constate qu'à Tchernobyl, aujourd'hui, il y a une forêt vierge. Ça pousse de partout. Tiens, c'est complètement contradictoire. Et les paysans qui s'y installent sont en excellente santé. L'accident de Tchernobyl est un énorme montage, en fait, organisé par le lobby du pétrole et les soi-disant écologistes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont morts là-bas, que nous ont présentés comme des kamikazes pour éteindre le foyer de je ne sais quoi, fait de radiation, d'une manière tout à fait neutre, on sait qu'ils ont pris avant des médicaments que les médecins qui les ont donnés ne savaient pas énormément ce dont il est retourné, et ça nous a été présenté comme pour être des médicaments en fait pour lutter contre les radiations. En fait, on peut aussi se poser la question, est-ce que ces médicaments, voilà, alors qu'on est en plein coronavirus ou en corona mensonge, si ces médicaments ont véritablement servi à la protection de ces gens-là. En tout cas, c'est curieux d'entendre, de voir deux choses: le syndrome chinois, film de science-fiction où il y a une catastrophe nucléaire, Et une semaine après, en 1979, la première catastrophe nucléaire. Et Tchernobyl, qui est véritablement une forêt vierge. C'est complètement contradictoire. Il faut ajouter à cela que le prix Nobel, donc Marie Curie, de physique Marie Curie, travaillait sur l'uranium pour soigner le cancer. Et on voit même, vous avez une vidéo, tapé professeur Galen Windsor, donc qui est un spécialiste du nucléaire dans les années 80, c'est un physicien de l'industrie donc nucléaire, qui pour prouver l'inoffensivité du nucléaire passe un compteur Geiger sur sa main qui repère en fait du nucléaire en fait, des échantillons. Le compteur Geiger se met en action. Et lui, donc, avale du nucléaire, en fait, on va dire de l'uranium, pour montrer l'inoffensivité de l'uranium. Je vous rappelle qu'il y a quelques dizaines d'années, il y avait aussi des cigarettes à l'uranium. Donc, c'est exactement la même chose, ce que j'expose avec le nucléaire. Et vous avez une vidéo qui est très complète d'un homme qui fait un excellent travail, qui s'appelle Rock Soker, qui parle très bien de ça pendant une demi-heure. Donc, j'ai fait un détour avec le nucléaire pour montrer, avec le syndrome chinois, la première catastrophe nucléaire de Three Mile Island, comme par hasard, en 1979, tout le poids de la science-fiction. Et nous avons la même chose donc avec ces fameux extraterrestres qui cachent une réalité. C'est le lien des Illuminati, des familles qui nous dirigent, avec les démons. Et on fait passer ça pour des extraterrestres. Alors, ce n'est pas Laurent Gleuzy qui parle de ce lien-là. C'est un officier, notamment de l'armée canadienne, qui s'appelait William Guicard, qui parle très bien de ça. Et le fils spirituel de Padre Pio, qui était au service secret du Vatican avant Vatican II, qui était contre Vatican II. C'est pour ça que Vatican II a essayé de l'assassiner plus d'une dizaine de fois, c'est-à-dire toute cette franc-maçonnerie vaticane, où il dit que les deux hommes disent que l'élite qui dirige le monde, les Rockefeller, les Rothschild, prennent directement leurs ordres de Satan. Donc, une fois de plus, ce n'est pas Laurent Gleuzy qui parle, c'est le fils spirituel de Padre Pio qui est au service de renseignement du Vatican. Et un officier de la marine donc canadienne qui a écrit un livre, Pluant sur l'échiquier. Je parle de ces cas-là parce que ce sont les plus révélés, les plus. Voilà. Donc, nous voyons bien, et c'est ce que je vais expliquer, pour bien comprendre ce qu'il y a derrière tout ça, derrière ces souterrains. Donc, dans mon livre, je répète, Extraterrestres et les messagers New Age. J'expose de manière limpide que les extraterrestres n'existent pas, ce sont seulement des démons déguisés en extraterrestres. Les extraterrestres de la science-fiction portent d'ailleurs des noms de démons, ce qui est tout à fait curieux, comme Ashtarté, Ashtaroth, les Anunnakis, Semjaz aussi, il y a. Alors les Anunnakis, on nous parle des Anunnakis comme étant des extraterrestres qui auraient fait naître la race humaine. C'est complètement faux. Les Anunnakis, ce sont les gardiens de l'enfer dans la civilisation de Sumer. Mais quand on n'a aucune, on va dire, culture, bon, effectivement, on n'est pas censé savoir qu'ils sont les gardiens de l'enfer dans la civilisation de Sumer, mais quand même, bon, on voit bien que ça fait appel, encore une fois, à la démonologie. En fait, les Illuminati, comme je l'explique, travaillent avec les démons. Et ça, il faut bien le comprendre pour comprendre ce qui se passe derrière les histoires de Trump, de Poutine. Les extraterrestres ne sont qu'un mensonge des trésiniers sataniques à laquelle appartiennent donc les Rockefeller, Rothschild, les Morgan, qui opèrent des expériences comme les crop circles, les abductions, les animaux morts ayant perdu leurs organes sans cicatrice, c'est-à-dire que vous trouvez des animaux morts avec leurs organes entre leurs bon, une vache, par exemple, c'est l'image que j'ai en tête, qui a ses organes entre ses jambes, enfin entre ses pattes, et vous n'avez aucune cicatrice. Tout à fait intéressant. Et donc, ces connaissances sont données par les démons, par le biais de la magie et des crimes rituels. Mais il est plus, on va dire, pour l'élite qui nous dirige, qui fait des expériences là-dessus, et notamment sur les crop circles, faut savoir que les Rockefeller travaillent avec des satellites sur les crop circles, etc. Tout ça, je l'explique dans mon livre. Alors, il est plus intéressant de présenter ça comme étant des extraterrestres que comme étant des démons, parce que effectivement, ces gens-là veulent se cacher aussi, quand même. Donc, tout le pouvoir de l'élite repose sur ses liens avec le démon. Et on le voit même avec une chose tout à fait très simple, j'en reviens à Don Ludivia, fils spirituel de Padre Pio, je répète, qui explique que le pseudo-pape Benoît XVI, qui est un sataniste, descendait, ce qu'il explique, de 9 rabbins, donc il avait tous les dossiers du Vatican pour dire tout ça, hein, puisqu'il était au service de renseignement, auprès du cardinal Ottaviani dans les années 50. Donc il explique que le pseudo-pape Benoît XVI descendait de 9 rabbins, dont le rabbin le plus sataniste de l'histoire du rabbinat, c'est-à-dire le rabbin Löw, inventeur du golem de Prague. Donc on voit bien que cette élite qui nous dirige a quand même des sources assez inquiétantes. Et tout est exposé par le fils spirituel de Padre Pio, donc Don Ludivia. Tout est révélé par lui. Donc cette élite, elle ne veut pas dire qu'elle est en lien avec des démons, donc elle va parler d'extraterrestres pour brouiller en quelque sorte les cartes et les pistes surtout. Donc vous voyez, Benoît XVI, pardon, qui était avec une mitre le jour de son intronisation en 2005, en avril 2005, avec un démon, qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, le démon préféré du grand mage sataniste, Aleister Crowley, 33e grand de franc-maçonnerie, et qui avait reconnu sacrifier plus de 100 enfants par an. Vous avez tout ça dans un de mes livres, Pédosatanisme et franc-maçonnerie. Pour en revenir à Philipp Schneider, donc en 1995, ce n'est pas n'importe qui, Philipp Schneider est un ingénieur géologue, jusqu'alors inconnu, qui donne une conférence dans laquelle il évoque donc les bases souterraines secrètes auxquelles le gouvernement américain consacre une grande partie de son budget. C'est ce qu'il explique puisqu'il y a travaillé pendant 17 ans dans des souterrains sur des projets américains, donc dits noirs, c'est-à-dire classifiés, voilà, extrêmement classifiés. Parmi les théoriciens de la conspiration, il est considéré, donc ce Phil Schneider, comme l'un des plus grands des plus importants, pardon, dénonciateurs de l'histoire. C'est-à-dire un grand conspirationniste, bien entendu, mais comme par hasard qu'on l'a retrouvé assassiné. Dans les années 1990, Schneider a pris la décision de dire au public tout ce que les autorités américaines cachaient. En 1995, donc 5 ans après, il a prononcé un discours, et ça c'est très important, surprise, à ce qu'on appelle Preparedness Expo, parlant du nouvel ordre mondial et des liens du gouvernement américain avec les extraterrestres. Donc, il faut bien entendre les démons. Les démons. Et là, on va bien comprendre ce que signifie la lutte contre la cabale qui est en train de mener Trump. On va très bien comprendre tout ça maintenant. Et donc, par ce mot, nous devons donc bien entendre par extraterrestres démons. Et ce secret, bon, prend une toute autre nature, bien plus importante quand on remplace le mot extraterrestre par le mot démon. Moins de 6 mois après cette conférence, Phil Schneider est retrouvé mort dans son appartement avec une corde de piano autour du cou. De plus, ce qu'on constate, c'est que le corps donc, de Phil Schneider était dans un tel état que des personnes proches de l'enquête ont suggéré qu'il avait apparemment été brutalement torturé avant sa mort. Cependant, la cause officielle de la mort est le suicide, comme toujours. Comme d'habitude, d'ailleurs, Phil Schneider se doutait depuis donc le début qu'il risquait de mourir. C'est ce qu'il avait dit à sa famille. Dans son rapport, Schneider, je répète, qui a travaillé dans ces bases souterraines, a déclaré que depuis des années, à la création, donc il avait travaillé à la création de bases militaires souterraines dans lesquelles étaient placés, entre autres, des équipements extraterrestres. C'est ce qu'il explique. C'est ce qui signifie qu'il y a bien un monde de démons sous la terre, comme le décrivent la Bible, comme par hasard, et un franc-maçon de très haut niveau, que tout le monde connaît, qui s'appelle Jules Verne, dans Voyage au centre de la Terre. C'est-à-dire que les animaux dans ce livre gigantesque, hein, donc de Jules Verne, au 19e siècle, ne sont que des représentations démoniaques qu'il s'agit en fait d'interpréter. Il faut savoir une chose en démonologie, c'est que les démons peuvent aussi prendre d'autres formes, à l'exception de l'agneau qui est l'animal du Christ. Donc, ils peuvent prendre aussi la forme d'extraterrestres. Donc, on sait, bon, il y a des prêtres qui sont partis en Papouasie en 1930, qui racontent, voilà, qui pratiquent les exorcismes, oui, qui racontent qu'il y a des hommes qui ont un fort pouvoir satanique, qui se transforment en oiseaux, pour voyager plus vite. Donc, voilà ce que raconte donc ce livre qui a été publié en 1950. Phil Schneider a affirmé que les autorités américaines reconnaissaient l'existence des extraterrestres depuis 1909 et qu'elles s'étaient donné beaucoup de mal pour cacher cette information au public. Il a également affirmé que plus de 500 milliards de dollars sont alloués chaque année à des projets secrets traitant de questions extraterrestres et que 28% du produit national brut américain est consacré à la construction de bases souterraines. C'est ce qu'il appelle le budget noir, qui est complètement caché donc au Congrès. Et donc, à travers sa conférence, il parle donc de huit messages clés. On parle de notre côté donc de huit messages clés du discours de Phil Schneider en 1995, soit, je répète, quelques semaines avant sa mort. Et donc, Schneider, qui a travaillé sur des bases souterraines, en 1995, il dit, 131 bases souterraines secrètes actives aux États-Unis et environ 1477 bases souterraines dans le monde. Donc, voilà ce qu'il nous explique à propos de cela. Et donc, on peut logiquement penser que Trump et Poutine combattent ce pouvoir des tunnels peuplés de démons pour faire tomber donc la cabale. Hein, parce que si on parle de la cabale, il faut aussi parler du reste. Donc on voit bien que ça renvoie à une réalité qui dépasse l'entendement, bien entendu, il faut bien l'avouer. Bill Schneider parle aussi de trains qui vont à une rapidité énorme, on peut parler de peut-être 1000 km/h qui existent dans ces tunnels. Et ça, c'est marrant, parce que ça nous renvoie à un film de science-fiction qui s'appelle Hunger Games et qui parle. Et tenez-vous bien, de ces trains souterrains qui vont à des vitesses extraordinaires. Et dans ce film, vous avez le président de la communauté qui s'appelle Coriolanus Snow, qui est l'anagramme de. Je te le mets dans le mille, je dirais, Wari, l'anagramme donc de coronavirus. Et voilà. Alors qu'on est véritablement dans un monde souterrain avec ce film de science-fiction qui s'appelle Hunger Games, et le chef de la communauté, Coriolanus Snow, c'est l'anagramme de coronavirus. C'est exactement la description que fait Phil Schneider pour avoir travaillé plus de 10 ans dans les souterrains et qui a été assassiné, effectivement, pour avoir divulgué toutes ces connaissances-là. Donc je pars, comment je dirais, je développe assez rapidement tout ça. La zone 31, il explique, c'est un complexe de 9 bases souterraines profondes, abritant plus de 18 000 travailleurs. Il faut aller voir mon article sur ça, hein. Je ne peux pas tout exposer maintenant, c'est un article qui fait 5 pages. Autrement, donc, ça serait trop long. Phil Schneider témoigne qu'au moins 9 races d'extraterrestres considèrent les humains comme leur source de nourriture. Tiens, c'est marrant ça nous rappelle l'adrénochrome, comme par hasard. Phil Schneider expose d'ailleurs qu'au lieu d'ingérer de la chair humaine, ils utilisent les sécrétions des glandes humaines et animales pour fabriquer un mélange de vitamines qu'ils ajoutent à leur nourriture. Et certaines races extraterrestres peuvent ressentir un effet semblable à celui d'une drogue à partir de l'adrénaline extraite du corps humain. C'est quand même un peu curieux parce que c'est exactement les mêmes récits que vous avez il y a plus de 100 ans sur les démons qui peuvent se nourrir d'un élixir qui serait fait à partir donc du sang humain. Mais ça, c'était il y a plus de 100 ans qu'on parlait de ces choses-là. Maintenant, on appelle. Voilà, c'est quand même curieux de remarquer que ces entités qu'on appelle des extraterrestres qui portent les noms de démons, comme par hasard, ressemblent aux démons d'il y a plus de 100 ans dans nos sociétés. Donc, en tout cas, ce qu'on peut penser, c'est que. Ce que je développe dans mon article, c'est que les souterrains sont des lieux de liaison interdimensionnelle, comme les grottes jadis. Et ce qu'on constate, c'est que quand vous prenez un Larousse, ce que j'explique dans mon livre Les gens de l'Atlantide, un Larousse des années 60, toute la notion sur les grottes qui renvoie au chamanisme, 10 ans après, dans les années 70, est complètement éradiquée. Ça n'y est plus. La seule version, je répète, donc, pour être bien clair, en 1960, c'est ce que j'explique dans mon livre, Les géants et l'Atlantide, on parle dans les grottes, donc ce sont ces lieux, et je vais démontrer pourquoi, des lieux de liaison interdimensionnelle. Donc, voilà, ces grottes, voilà, dans les dictionnaires en France en 1960, je cite tout à la page près, l'année de parution, enfin, c'est très précis. On nous explique que ça peut être un lieu de chamanisme. Et 10 ans après, ce n'est plus évoqué, on parle seulement de la préhistoire. Alors que j'explique toujours que la préhistoire n'a jamais existé, que tout ça c'est un grand mensonge. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les grottes ont certainement été construites donc de main d'homme. C'est même la radio France Inter qui a fait une émission à ce sujet il y a peut-être 3 ou 4, il y a peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans, qui expose que les grottes ont une sonorité qui est parfaite. C'est ce qu'on retrouve aussi avec le père jésuite Manuel Magri, qui meurt sans raison le 29 mars 1907 à 56 ans, après avoir découvert vers à Malte ce qu'on appelle l'hypogée Al-Salfieni, où il découvre donc sur 3 souterrains donc une grotte et donc voilà avec des tunnels etc. et avec une acoustique parfaite, c'est-à-dire que si on se met sur une certaine fréquence à un certain endroit, les 3 étages sont complètement remplis donc de ce son. Et lui décède en 1907. On ne sait pas, enfin, jamais vous ne trouvez la raison de sa mort. Donc on est bien dans un monde souterrain, une fois de plus, avec cette histoire de ce qu'on appelle de l'hypogée Al-Salfieni à Malte. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que les grottes ont été taillées par des technologies de haute perfection, comme les 1000 statues de l'île de Pâques. Il faut savoir aussi que dans le Critias de Platon expose que la montagne a été taillée, tiens, donc ça peut nous renvoyer aux grottes, pour la construction du palais du roi Poséidon donc sur l'île de l'Atlantide. La vérité est exposée donc dans mon livre, que, enfin la vérité, tous ces arguments sont exposés donc dans mon livre Les géants et l'Atlantide. Ce qu'on constate aussi, c'est que les dessins préhistoriques ne sont jamais à l'entrée d'une grotte, mais dans les endroits les plus sombres et les plus inaccessibles. Donc ça va de pair avec une haute technologie. Et la préhistoire nous montre ces dessins-là, et pour la plupart, ce sont des dessins qu'on serait incapable de reproduire, tellement il y a des effets de perspective, etc. C'est très complexe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un préhistorien ariégeois, il s'appelle Jean-Claude, qui disait que 5% de l'art pariétal serait irréproductible, enfin on ne pourrait pas le reproduire. Et c'est même un prix Nobel de physique, hein. Tout est sourcé dans, j'en reviens encore une fois sur ce livre sur les géants et l'Atlantide, prix Nobel de physique américain, le premier prix Nobel de physique américain, Frédéric Soddy, qui dit que la technologie de la civilisation atlante est supérieure donc à la nôtre. Vous avez des tunnels, on le cache sous les pyramides, les plus grandes pyramides ne sont pas en Égypte, mais en Chine et en Bosnie. Donc tout ça prouve quoi? C'est que le monde des tunnels existe depuis très 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 longtemps, que les grottes, très certainement, donc, sont les restes d'un monde, on va dire, qui nous est transmis après le déluge, c'est-à-dire que ça a été certainement bien construit avant le déluge, exactement comme l'île de Pâques. C'est pour ça que les statues de l'île de Pâques ne peuvent pas regarder la côte, parce que cette terre était différente, cette côte était différente avant le déluge. Donc voilà, j'explique en profondeur ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passait avant. Quand on veut cacher aux gens, et c'est écrit dans un dictionnaire dans les années 1960, que ça disparaît 10 ans après, que les grottes sont les endroits du chamanisme, c'est-à-dire de connexion avec des démons, il est bien évident que ça ne s'est pas arrêté, ça a continué. Et c'est ce que nous révèle Phil Schneider, comme par hasard, qui meurt quelques semaines après avoir exposé que l'élite est au contact d'extraterrestres. Seulement, il faut avoir la bonne définition des choses. Il faut bien comprendre que les démons peuvent prendre toutes les formes qu'ils veulent, à l'exception de l'agneau qui est l'animal donc qui représente le Christ. Donc, une fois qu'on a bien compris ça, on peut comprendre beaucoup de choses. Et les tunnels, en fait, ce n'est ni plus ni moins que la reproduction des grottes il y a, on va dire, plusieurs milliers d'années, où se pratiquait le chamanisme, où les dessins, ce qu'on voit avec la grotte de Lascaux, sont complètement, donc on ne pouvait pas les reproduire tellement ils sont parfaits. Fait parfait. Parfait et complexe. D'ailleurs, le premier prêtre dans les années 60, le père Glory, qui a découvert Lascaux, a eu deux accidents de voiture. Le second, il en est mort et sa maison a été pillée et on a pris les croquis. Donc, il a fait certainement que lui avait compris ce qu'il y avait derrière tous ces dessins-là. Et voilà. Donc, en fait, c'est pour bien expliquer que le monde que l'on vit aujourd'hui avec les trains, avec tout ce système de tunnels, ça existe depuis des milliers d'années. Et le fondement de tout ça, ce sont des connexions interdimensionnelles avec donc des entités démoniaques. Quand vous lisez la Bible, vous avez cette notion du monde souterrain habité par les démons. Et c'est le monde du voyage au centre de la Terre de Jules Verne, qui est un franc-maçon de haut niveau, comme par hasard. Donc voilà ce qu'il faut bien comprendre quand on parle donc du monde intraterrestre, qui est un monde qui a passionné donc une Ukrainienne kabbaliste, Elena Blavatsky, au début donc du siècle. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. J'ai voulu en faire le thème central parce que c'est très important. Il ne faut pas tomber dans le piège d'extraterrestres qui n'existent pas. Et comment on sait que les extraterrestres n'existent pas? C'est très simple. Déjà, il faut bien comprendre que ces notions d'extraterrestres existent parce que les gens sont complètement désorientés. Les gens n'ont plus de culture. Ils ne savent même plus ce que c'est qu'un miracle. Ils croient savoir des choses, mais ils ne savent strictement rien. Comme je le dis assez souvent, vous avez dans toutes les villes de France, parce que la France, c'est le pays où il y a eu le plus de sang au monde, dans toutes les villes de France, vous avez dans des cercueils en verre des saints qui sont complètement intacts, ça fait 100, 200, 300, 400 ans. Personne ne le sait. Parce que nous sommes dans un monde de l'inculture. Et ce monde de l'inculture, effectivement, fait, on va dire, les beaux jours, c'est le terreau favorable d'éléments kabbalistes, où on vous explique que les extraterrestres, etc., etc., avec la plus grande, enfin le plus d'éléments, enfin comment dire ça, avec les plus grandes contradictions, mais on ne les voit pas parce qu'on a perdu toutes les références. Et la référence principale, c'est que le Christ est apparu seulement sur la terre, alors que le péché originel a impacté toute la nature. Vous avez même un prêtre qui écrit au XVIIe siècle, même les étoiles brillent moins bien par rapport donc à la période du péché originel. Parce que c'est de là d'où vient la mort d'ailleurs. Hein. C'est que le péché originel impacte toute la nature. Et donc, le Christ vient, c'est ce qu'on voit avec le linceul de Turin, voilà, dont on n'a jamais pu prouver qu'il était favorable. Que c'était un faux, tous ces miracles-là. Mais le Christ, donc, donne l'éternité. Et dans la Bible, il est bien mentionné qu'il revient sur la terre, il ne va pas ailleurs. Donc on comprend bien que les extraterrestres n'existent pas. Et d'ailleurs, c'est très curieux je le dis, que les extraterrestres portent des noms de démons. Donc je le dis bien, tout est dans ce livre, dans Extraterrestres et Messages du New Age, où on voit bien. Que les Rockefeller sont derrière tout ça. Derrière tout ça. Donc, en conclusion donc de ce paragraphe, il faut bien comprendre que le monde des tunnels qu'on nous expose aujourd'hui, c'est le monde des grottes d'avant qui servait de connexion interdimensionnelle. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, on peut comprendre tout simplement parce que j'entends des gens qui disent, c'est pour ça que j'ai voulu traiter aussi de ce sujet à partir de ce géologue, Phil Schneider, du sujet des tunnels. Beaucoup de gens disent, ah oui, mais c'est, il n'y a pas de preuves, etc. Et si, les preuves, on les a sous les yeux, ce sont les grottes qui datent de plusieurs milliers d'années. Et les tunnels, c'est la continuité, tout simplement, des grottes qui servaient, et dont les tunnels servent encore, voilà, de lien avec des entités interdimensionnelles. Et c'est ce qu'explique, pour y avoir travaillé pendant 17 ans, Phil Schneider, l'élite de ce monde, qui a bâti même des villes, on peut penser des réseaux souterrains de communication, de trains, etc. Se fait à partir donc des démons qui donnent des connaissances. Et d'ailleurs, je me répète, ces trains à forte allure dont parle Schneider, vous le retrouvez dans un film de science-fiction qui s'appelle Hunger Games, dont le président mondial, on va dire, cette communauté-là, hein, porte le nom donc de coronavirus, c'est l'anagramme donc de coronavirus. Voilà, son nom c'est Coriolanus Snow, qui est l'anagramme donc de coronavirus, où on présente donc ces trains à grande vitesse dans des tunnels, etc. C'est très curieux, voilà, c'est un lien qu'on ne peut, enfin, qu'on est obligé donc de prendre en compte. Donc voilà pourquoi le monde des tunnels existe, mais parce qu'il n'y a rien de nouveau. Ça fait 1000 ans, ça fait des milliers d'années que ça existe, mais avant on appelait ça des grottes. Tout simplement, ce sont des lieux qui servent à la communication interdimensionnelle ou avec les démons, tout à fait simplement. Donc voilà ce que je voulais expliquer d'une manière très forte par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est la transposition, tout simplement, c'est la découverte. C'est la révélation voilà, du monde des grottes qui aujourd'hui est combattu par voilà par on va dire l'alliance l'alliance donc combat cette cabale-là qui est le monde souterrain, qui est le monde interdimensionnel, tout à fait simplement. Donc voilà ce que je voulais dire au Wari à ce sujet. Excusez-moi, j'étais un peu long.
Non, pas de souci. Écoute, moi j'avais une question concernant justement le début de ton intervention là sur le nucléaire.
Oui.
Si j'ai bien compris ce que tu as dit, donc le nucléaire en fait serait beaucoup plus bénéfique pour l'homme que ce que l'on prétend aujourd'hui. Et donc
Tout à fait.
suite à l'accident donc de Tchernobyl. Derrière, ben, en fait, voilà, le nucléaire était un petit peu classé comme dangereux,
Oui.
mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même pas mal d'États qui utilisent le nucléaire. Et
Oui, bien sûr.
on a eu tout récemment l'accident nucléaire de Fukushima.
Oui.
Fukushima, derrière, qui a engendré bien sûr des répercussions sur le nucléaire sur le plan mondial. Et on a vu des décisions qui ont été prises, par exemple avec l'Allemagne qui a décidé de se passer du nucléaire. Est-ce que justement c'est plutôt pas une continuité de cet accident de Tchernobyl qui aujourd'hui refait surface avec l'accident de Fukushima? Pour justement pas qu'on se on se on se comment dirais-je on s'oriente vers le nucléaire et plutôt vers une autre énergie.
Oui. Alors ta question, elle est vraiment. Écoute, vraiment, je n'avais pas préparé cette question. Je la trouve très pertinente parce qu'elle va me permettre de développer. Alors, il faut bien comprendre une chose. C'est que derrière l'accident de Fukushima, quand on creuse un peu, il y a une histoire qui revient assez souvent, sans qu'on en sache plus. C'est l'histoire d'une voiture qui fonctionnerait avec de l'eau. C'est quand même un peu étrange. C'est-à-dire que, et une semaine après, il y a l'histoire de Fukushima. Est-ce qu'il s'agit réellement d'une voiture qui fonctionnait avec de l'eau? Ou est-ce que c'est une voiture, une fois de plus, qui fonctionnait avec de l'énergie libre? Il faut savoir une chose. C'est que tous les scientifiques qui ont travaillé sur l'énergie libre ont été assassinés. C'est le cas du docteur Stéphane Marinoff, par exemple, qui était dirigeant du mouvement pour l'énergie libre en Europe, qui s'est suicidé, bien sûr, en se jetant d'une fenêtre. C'est le cas du docteur Eugène Malo, qu'on écrit M-A-2-L-O-W-E, qui lui a été battu à mort 24 heures avant de révéler à la radio l'invention d'un appareil portatif à énergie libre. Le plus connu d'entre eux, c'est Nikola Tesla, qui est mort dans sa chambre d'hôtel avant une intervention pour une conférence en 1943. Je peux parler aussi de John Searle. Je peux aussi parler de Thomas Henry Moray, Moray, mort en 1974. Il y a comme ça beaucoup de gens comme Otis Carr qui avait travaillé aussi avec Nikola Tesla sur une soucoupe capable de léviter et de voyager dans le temps. Petite chose très curieuse que je mentionne dans ce livre, à partir de deux sources, notamment une source militaire donnée par le général Leti, qui avait été directeur de l'IHEDN, une école d'ingénieurs militaires. C'est-à-dire, on a affaire à des gens cadrés, pas des illuminés, mais des gens qui, quand ils croient une chose, c'est parce que ils ont fait des observations. Ce ne sont pas des gens qui, il semblerait que, je crois que, non, c'est pas du tout ça. L'esprit militaire n'est pas là. C'est, on voit une chose, on observe. Et ce qu'on observe, on écrit. Je vois que. Après, on interprète. Ou on tente. Et le général Leti explique bien, lui, pour sa part, qu'on n'a jamais vu de soucoupe volante entrer, venir de l'extérieur de l'atmosphère et rentrer dans l'atmosphère. Tout est constaté à l'intérieur. Et il explique une chose, et ce n'est pas le seul, je crois que c'est aussi un autre livre, OVNI 40 ans de désinformation, qui est fait par aussi quelqu'un qui a l'esprit qui est bien bordé. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils savent plus ce que ça veut dire démontrer, c'est je crois que, il va se passer que, etc. Mais voilà, ça repose sur rien, c'est je crois que, en fait, voilà. Non. Là, on a affaire à des gens qui ont l'esprit, le cerveau cadré. Et Leti, donc il y a deux sources que je mentionne dans mon livre, explique que Madame Galbraith, dans les années 80, qui est l'épouse de l'ambassadeur américain en France, est contactée par les Rockefeller pour lister les scientifiques qui s'intéressent aux soucoupes volantes. Donc, par soucoupe volante, il faut que ça fasse tilt, c'est en fait les scientifiques qui s'intéressent à l'énergie libre. Fukushima, on nous parle d'une voiture qui fonctionnerait avec de l'eau. Et ça ne va pas plus loin. Quand on cite toutes ces personnes-là qui sont assassinées et qui ont travaillé comme par hasard sur l'énergie libre, il semblerait qu'on soit un peu sur ce vecteur-là pour expliquer ce que c'est que l'énergie libre. Et je suis en train de creuser ce que tu demandes, ce que Wari. L'énergie libre, le nucléaire, c'est, on va dire, une énergie libre fossile. C'est l'énergie, comme je le disais, pour toute la longévité, pour toute la durée d'une personne, 30 euros d'uranium suffiraient. C'est quand même curieux de constater que l'uranium est dangereux alors que c'est l'énergie la moins chère. C'est quand même curieux de constater qu'un prix Nobel comme Marie Curie, qui est morte, qui est décédée, on va dire à plus de 60 ans, alors que la moyenne d'âge des femmes, c'était 50 ans, travaillait Et ça n'a pas été la seule à ce sujet, sur des moyens pour guérir du cancer, pour soigner le cancer à partir du nucléaire. Et je le répète, elle meurt bien au-delà de la moyenne de mortalité, la durée de vie d'une femme. Tchernobyl, c'est quoi? Tchernobyl, dont on nous dit que la radioactivité détruit pendant 200 000 ans une terre de toute végétation. Tchernobyl, c'est une forêt vierge aujourd'hui. C'est complètement contradictoire. C'est qu'il y a un mensonge quelque part. C'est que des images où on vous montre des animaux avec cinq pattes, etc., tout ça, ça a été construit de toutes pièces. C'est que ces kamikazes qui vont éteindre des foyers d'irradiation ne sont pas morts des radiations, mais sont morts certainement des médicaments qu'on leur a donnés avant. Et Tchernobyl, pourquoi? Mais c'est parce que, je vous parle dans les années 79, du syndrome chinois où c'est un réacteur, en fait, qui s'enfonce dans toute la Terre et qui va même jusqu'en Chine. Et les gens sont horrifiés parce que l'image qu'on a du nucléaire avant, ce sont des gens dans les usines qui travaillent main nue et qui se passent des briques, d'uranium, etc., main nue. Jamais on n'a pensé à ça. Et donc, on va créer tout un ensemble de résistances, de fausses résistances. Bien savoir que derrière le lobby du pétrole, c'est les Rothschild. Et ils vont créer donc tous ces mouvements écologistes, les écologistes qui sont complètement absents du mensonge du coronavirus, qui sont complètement absents du danger mortel de la vague, et qui vont même vous proposer des choses plus dangereuses que l'essence, comme l'éthanol, et qui affament des populations comme au Brésil avant. Bolsonaro, etc. Enfin, c'était le, si je me mémoire, Lula, etc. C'était des mafias, etc. Donc, et les écologistes, ce sont les éoliennes. Les éoliennes qui polluent et qui créent donc des ondes extrêmement nocives pour l'organisme. Donc, on voit bien que quand vous avez des écologistes aujourd'hui qui s'attaquent au nucléaire, ce serait quand même la première fois qu'ils s'attaquent à quelque chose, et je veux dire, qui serait vraiment dangereux, puisque chaque fois, ils défendent des choses qui sont plus dangereuses que moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que il faut que cette énergie qui ne coûte pas du tout cher devienne un danger. Et c'est pour ça que je parle en même temps de ce docteur où vous avez une vidéo sur Internet. Il faut pas aller chercher bien loin. Hein. C'est donc il faut que je trouve le nom. Donc c'est le docteur donc professeur Galen Windsor, qui est un spécialiste du qui mange de l'uranium après avoir bien montré que ça crépite avec le compteur Geiger. Donc on va créer un film de science-fiction, toujours pareil, comme on l'a fait avec les extraterrestres, pour bien cacher aux gens que l'élite travaille avec des démons. On leur fait passer ça comme des extraterrestres. Et avec le nucléaire, c'est la même chose. Donc, je parle du nucléaire pour bien montrer l'impact de la science-fiction qui est entre les mains, donc, de l'élite Illuminati. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a le syndrome chinois qui va montrer, ceci est une fin de science-fiction, ce que personne ne savait, c'est que le nucléaire est dangereux, alors que le prix Nobel de physique Marie Curie travaille contre le cancer avec du nucléaire, etc. Il y a même des cigarettes. Il faut aller voir ça, mais j'en reparle, c'est Mohamed Rifi qui vous parle des cigarettes qui sont un bienfait pour la santé, présenté sur des affiches publicitaires par des médecins, par des infirmières. On est et il explique très bien aussi ça. Je fais une parenthèse parce que c'est quelqu'un qui a vraiment énormément de talent. Tout ce qu'on vous montre, voilà, où on vous montre maintenant sur des paquets de cigarettes et des poumons complètement noircis, on vous dit voilà, c'est le cancer des poumons causé par la cigarette. Mais est-ce qu'on est obligé de le croire? Est-ce que c'est pas une autre maladie? Donc Mohamed Rifi explique ça avec beaucoup de précision. Il a montré plusieurs affiches. Il dit voilà, il y a encore 40 ans, des médecins faisaient la promotion des cigarettes. Bon, moi j'ai pas creusé ce domaine-là, mais bon, comme j'ai un esprit qui est révisionniste, on va dire, j'aime bien lire les choses plusieurs fois, les relire, les reviser et ne pas croire ce que me disent les menteurs. Voilà, donc. Et C'est ce qui se passe avec le nucléaire. Le nucléaire, donc, il y a le syndrome chinois, une semaine après, la première catastrophe nucléaire, première semaine après la sortie du film. C'est quand même un peu gros, non? Et qu'est-ce qui se passe? On est en 1979. Et entre-temps, donc, les gens, on a oublié, les dangers du nucléaire, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va nous mettre Tchernobyl, 10 ans après. Et Fukushima, c'est quoi? Quand on a bien compris que le nucléaire, c'est de l'énergie libre fossilisée, Fukushima, c'est tout simplement, enfin, on peut comprendre ça comme ça, je ne dis pas que ce soit ça, mais une attaque de l'élite contre une usine japonaise qui fabrique non seulement du nucléaire, mais il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière ce mot, qui fabrique une énergie libre fossilisée. C'est pour ça qu'il y a un lien avec cette histoire de voiture à eau et qu'on peut le comprendre très bien si on comprend que ce n'est pas censément de l'eau, mais de l'énergie libre que les Japonais étaient en train de fabriquer une voiture à énergie libre. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure de 5-6 scientifiques qui ont travaillé sur l'énergie libre et comme par hasard qui décèdent, qui se suicident, que comme par hasard c'est Madame Galbraith qui est financée par les Rockefeller pour lister les scientifiques qui travaillent sur l'énergie libre, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est derrière tout ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est derrière tout ça, Harry.
Ouais, juste
Donc le
entre
nucléaire n'est
parenthèses,
pas.
juste, je t'ai mis le lien là du professeur Galen Windsor de la vidéo.
Oui.
Donc pour ceux qui veulent regarder, et je vais mettre aussi le lien de Mohamed Rifi.
Tout à fait. Qui est quelqu'un qui fait un excellent travail à ce sujet, qui remet tout en question sur l'astronomie aussi. Donc voilà quoi, c'est peut-être quelqu'un qui sera amené à travailler avec nous, s'il le veut en tout cas. En tout cas, il en a complètement les capacités pour apporter une grande plus-value. Mais voilà comment on fabrique des mensonges. C'est là tout l'intérêt des alerteurs chez nous, c'est que on le voit bien, on est la seule chaîne. Bon, après, il y a des personnes comme Philippe Jeandrocq aussi, hein, qui pour moi c'est un des seuls dissidents hein, aujourd'hui. Donc, mais on le voit bien avec les alerteurs, on parle de sujets comme ça, alors que personne n'en parle. Et ça, si on a bien compris ce qu'il y avait derrière, donc ce géologue-là que j'ai pris donc en référence, Phil Schneider, on comprend tout ce qui se passe aujourd'hui avec les tunnels, avec la cabale. C'est là où il faut tilter. C'est là où il faut aller plus loin. Pas faire comme les idiots, là, des soi-disant alerteurs, boum, 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 la cabale, etc. Non, c'est pas du tout ça. Ça va bien plus loin que ça. C'est que nous sommes effectivement dans la continuité des grottes qui servaient, comme le disent les dictionnaires, je mentionne même je crois que c'était le Larousse, tout est dans mon livre sur les géants, le Larousse, je donne même la page, tout, dans les années 60, il parle de lieux de chamanisme en parlant des grottes. Et cette notion de chamanisme disparaît 10 ans après, où on nous parle des hommes préhistoriques seulement, parce que les gens ne doivent pas avoir cette connaissance aujourd'hui que à l'époque, on va dire, il y a plus de 1000 ans, déjà, il y avait des lieux où qui étaient parfaitement construits d'une manière acoustique et qui étaient des grottes où on faisait du chamanisme. Et pourquoi? Parce que un esprit qui est un peu éclairé, qui a une certaine intelligence, qui a une certaine rigueur, une certaine vigueur aussi de l'esprit, comprend très bien que ben, ce monde-là, c'est aussi le monde d'aujourd'hui, c'est le monde du satanisme, tout simplement. Et les tunnels d'aujourd'hui, je me répète, c'est les grottes d'avant. Tout à fait simplement. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je parle de ce sujet-là, parce que Schneider a été assassiné. Il travaille sur les bases souterraines et c'est pour bien comprendre l'actualité qui se cache derrière les Trump, pour bien comprendre ce que l'Alliance entreprend comme action. Et c'est pour bien comprendre ce qui se passe aussi en Ukraine. Et on va y venir tout à l'heure dans l'article que je vais développer. Parce que l'Ukraine est le siège, est une des capitales, en tout cas c'est la capitale en Europe du satanisme. La semaine dernière, j'ai bien expliqué que l'Ukraine travaillait sur un projet secret de dictature mondiale. Voilà ce que c'est que l'Ukraine. C'est pour ça que Poutine, qui intervient en Ukraine, est en train de tout casser. Il est en train de tout casser sur, effectivement, c'est ce monde de la cabale. Et comme par hasard, l'Ukraine, Phil Schneider explique que ces extraterrestres se nourrissent de sang, etc., etc., comme par hasard. Donc on voit bien que. Et l'Ukraine, donc, comme par hasard, c'est là où vous avez les plus grands charniers, où les gens sont délestés de leurs organes, abattus avec des balles, les plus grands charniers d'Europe, comme par hasard. C'est pour ça que ce sujet est intéressant. Parce qu'il renvoie à l'actualité. On n'est plus au fil de l'eau où on commente l'actualité avec des données chiffrées, le PIB, le PNB, etc. Non, ça c'est de la foutaise tout ça. Ça c'est des chiffres inventés, tout ça on le sait bien. C'est que là on est au cœur effectivement du problème. Tout à fait. En tout cas, j'en ai fini pour moi, Avoiri, là, pour ce que je voulais dire. Hein. Pour ce sujet. Allô?
Excusez-moi. Laurent, oui, désolé. Donc, oui, ok, pas de souci. Donc, on va passer à un sujet très, très chaud aussi. Donc, la fuite d'un rapport où, alors,
Oui,
où
c'était.
Israël reconnaît que les Juifs sont en fait des Khazars. Voilà.
Oui. Alors ça, c'est un article. Ça ne sort pas d'un journal antisémite qu'on distribue, on va dire comme ça. Ça sort du Times of Israel du 16 mars 2014. Et ça va nous permettre de comprendre ce qu'il y a encore derrière l'Ukraine et qu'il y a un combat qui existe depuis 10 siècles entre l'Ukraine et la Russie. Et on va bien comprendre certaines choses, notamment avec la Crimée. Donc voilà ce qui est tout à fait derrière tout ça. C'est ce qu'on va voir à travers donc cet article. Donc cet article du Times of Israel du 16 mars 2014 explique qu'en 2014, donc, il y a un rapport qui a été publié en Israël reconnaissant les Khazars comme juifs de fait, de facto, et d'autre part pour la première fois, il a été question d'une migration juive vers l'Ukraine. Voilà ce qu'explique ce journal. En pratique, donc, il y aurait la volonté d'Israël de relocaliser les colonies, mais en Ukraine. Et un pays qui a conclu un accord, non seulement sur la base, donc l'Ukraine, c'est un pays qui a conclu un accord sur la base donc de liens historiques, parce que l'Ukraine appartient à la patrie des Khazars. C'est ce que j'explique depuis un certain moment, c'est ce que ce journal apporte lorsque je parlais notamment du Kazakhstan. Vous allez voir Wikipédia, ils disent la même chose. Il y a un accord qui se fait aussi à partir d'un échange de l'aide militaire nécessaire contre la Russie, qui est l'ennemi juré. C'est-à-dire qu'en fait, l'Ukraine sert aussi au combat donc, de l'ennemi juré, ce qu'on va voir par rapport donc, à l'existence de l'Ukraine. L'Ukraine qui est un pays qui est complètement qui est une construction artificielle. Hein. Ça ne devrait pas exister, on va dire. Ça a appartenu à l'Empire ottoman, ça a appartenu à la Pologne, voilà. Mais l'Ukraine, ça vient, on va dire, au début du 19e siècle. En tout cas, entre le 8e et le 9e siècle, les Khazars, qui est un peuple turc, ont été forcés par l'empereur russe à se convertir au judaïsme et se sont dès lors mélangés aux vrais et rares juifs séfarades. Les Khazars régnaient sur un vaste donc, territoire situé aujourd'hui entre le sud de la Russie, le sud de la Russie et l'Ukraine. Et il s'étend même, on va dire, jusqu'à la Mongolie. Donc voilà tout ce qu'explique ce journal. Et ce journal va encore plus loin, il écrit, après la destruction de leur empire par les Russes au 11e siècle, donc je répète bien, après la destruction de leur empire par les Russes au 11e siècle, les Khazars se sont dispersés à travers l'Europe. Donc c'est-à-dire que l'empire Khazar, qui était en construction à partir d'une conversion au judaïsme, a été détruit par l'empire des Russes au 11e siècle. Et donc maintenant, ils veulent reconstruire cet empire-là. Et il y a une vengeance qui est historique, qui veut, mais effectivement, que pour que il y a cet esprit de vengeance Khazar contre la Russie qui a détruit il y a on va dire 10 siècles leur empire. Il y avait certaines visées mondiales, certainement. Donc voilà ce qui est derrière certainement aujourd'hui les problèmes. On voit bien, c'est pour ça que certainement, toute la presse mondiale s'intéresse aussi à l'Ukraine. Donc, on assiste aujourd'hui en fait à un projet. C'était l'invitation ukrainienne aux Juifs de retourner dans l'ancien empire qui avait été cassé par l'empire russe au XIe siècle. Et le problème, c'est que aujourd'hui, l'Ukraine, on va dire, si elle s'écroule, c'est la fin de la mondialisation. C'est pas moi qui le dis. C'est Larry Fink qui a déclaré, qui est Larry Fink, bon, il faut aller voir, c'est BlackRock, la société la plus riche. Comme par hasard, c'est la société qui a fait le plus de bénéfices avec les vaccins et qui est le plus grand financier du terrorisme dit islamiste dans le monde. Le plus grand financier de Al-Qaïda, de tous ces groupes-là. Ça, je l'ai souvent expliqué dans mes livres sur les superloges, hein. Donc, il faut aller voir, tout est référencé là-dedans. Et c'est Larry Fink, donc, qui est le directeur voilà, de celui qui a rapporté le plus avec les vaccins, avec le coronavirus, avec Omicron, etc., le plus grand financier du terrorisme dans le monde, qui dit que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis fin à la mondialisation. Donc, quand on comprend bien ce qui est derrière l'Ukraine par rapport à ces plans-là, quand on comprend bien aussi qui est Larry Fink, hein, bien entendu, on comprend tout ce qui est derrière. Hein. On comprend tout ce qui est derrière. Hein. Et l'actuelle République autonome de Crimée était en fait un port historique contrôlé par les Khazars. C'est pour ça que ça gêne énormément, on va dire, certaines bien-pensances, le fait que la République autonome de Crimée soit entre les mains de la Russie. Parce que c'est un port qui appartenait, historique contrôlé par les Khazars. Donc voilà ce qu'on peut dire. En fait, il s'agit d'un plan séculaire des Khazaris pour venger la défaite de l'Empire Khazar par les Russes. Et vous remarquez tout plein de choses. Hein. Vous remarquez que l'Ukraine, que le Kazakhstan sont les plus grands producteurs de crypto-monnaies. Que la crypto-monnaie, comme par hasard, l'oiseau, c'est le. J'ai oublié le nom, excusez-moi, mais c'est exactement le même oiseau que vous avez sur un shekel, qui est la monnaie israélienne. Donc tout ça, ça se. C'est le. C'est pas un condor, excusez-moi, j'arrive plus à retrouver le nom. C'est un phénix. Le phénix. Le phénix qui figure sur les. Sur la crypto-monnaie et que vous retrouvez sur un shekel qui est la monnaie israélienne. Et comme par hasard, la crypto-monnaie, le Kazakhstan, l'Ukraine sont des grands producteurs de crypto-monnaie. Donc là, on commence à comprendre certaines choses, encore une fois de plus. Et comme par hasard, l'Ukraine nourrissait les projets d'une grande dictature mondiale avec Zelensky. Donc on voit bien que en février, par exemple, la révolution ukrainienne, qui a été financée par les aides mutuelles comme George Soros, c'est pas le fruit du hasard. Là, on parle de la révolution de Maïdan. Donc tout ça, c'est une certaine logique. Et le 18 mars, par exemple, 2014, a eu lieu la reconnaissance par Vladimir Poutine de la Crimée comme État souverain indépendant. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui s'oppose à tout cela. Parce que Poutine s'oppose au pouvoir des Khazars de ce fait. Donc suite à cela, les forces en présence ont placé un de leurs propres hommes, le Khazar Zelensky, à la tête du gouvernement en Ukraine, qui a fait massacrer son propre peuple au Donbass, c'est-à-dire la minorité, enfin le Donbass qui est une majorité russe, hein, par des bataillons nazis. Et la semaine dernière, je vous avais parlé d'un Portugais qui avait d'énormes problèmes avec la justice portugaise parce que c'est le représentant, on va dire, du national-socialisme, ou à l'égard duquel on a tout oublié et qu'on envoie en Ukraine pour aller se battre. Donc on voit bien que les Khazars s'entourent de gens. Enfin voilà, on voit qui sont les tireurs de ficelles. Donc cette situation, en fait, ce qu'on voit, aggravée par la volonté insensée mais millimétriquement provocatrice d'adhérer à l'OTAN, avec donc les nombreux laboratoires d'armes chimiques gérés par le Pentagone sur le sol ukrainien, donc a provoqué donc l'effondrement des relations avec le Kremlin, bien entendu. Mais on voit bien le jeu de maintenant de Poutine. Contre quel État il s'oppose. C'est pour ça qu'il y a un lien aussi par rapport au monde des tunnels que j'ai exposé au début. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Et c'est ce que en fait explique ce journal. C'est pas Laurent Gleuzy qui s'est levé un beau matin pour annoncer tout ça. Je le répète, tout ça est écrit dans le Times of Israel du 16 mars 2014. Voilà, Wari.
Juste pour conclure sur l'Ukraine, aujourd'hui, on nous annonce qu'il y a une découverte de charniers. Qu'est-ce que tu peux nous dire ça par rapport à ça?
Les charniers en Ukraine n'ont rien de nouveau puisque Mediapart les a annoncés déjà en 2014. Donc, c'est tout. Quand on connaît les Khazars, je n'irai pas plus loin.
Oui, ben de toute façon, bien sûr, les médias nous montrent ce qu'ils veulent, mais là, c'est soi-disant suite au retrait de l'armée russe, voilà.
Oui, bah bien entendu. On connaît aussi qui sont les auteurs de l'inversion accusatrice. Les
Ouais.
mêmes qui font les choses et qui en accusent les autres. Bon, il y a une
Tout à
certaine
fait.
spécificité culturelle là-dedans aussi. Hein?
Exactement.
Ce sont les mêmes qui produisent la vague pour assassiner les peuples et qui eux-mêmes ne se font pas vague.
Allons, nous
On
allons
les
tomber dans le complotisme.
Hein?
Nous allons tomber dans le complotisme.
Oui, je veux.
Bon, on va passer à un sujet très, très, très intéressant aussi. Donc, la Corée du Sud, avec une explosion des décès et apparition du sida suite à la vaccination de masse.
Oui. Donc en fait, on assiste à travers la Corée du Sud, donc à une explosion des décès et à l'apparition du sida. Il me semble que Montagnier avait parlé de ça. Il savait de quoi il parlait puisqu'il était le soi-disant découvreur donc du virus du sida. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que le désastre de la vaccination en Corée du Sud est de plus en plus évident. C'est un député autrichien qui s'appelle Gerald Hauser qui a fourni en exclusivité donc au quotidien national autrichien Wochenblick sa compilation choquante de l'évolution des chiffres du corona en Corée du Sud. Il explique qu'à que 87% de la population a déjà reçu deux injections de thérapie génique et près des deux tiers ont également reçu la troisième piqûre, donc les deux tiers. Conséquence, le nombre de décès dus au Covid explose littéralement. 64% du total des décès enregistrés pendant la pandémie l'ont été au cours des 3 premiers mois de cette année. Il explique aussi que le nombre de nouveaux décès signalés chaque jour atteint des pics inquiétants. L'affaiblissement du système immunitaire dû, donc c'est ce qu'il dit, hein, aux dangereuses injections Corona est clairement visible dans un nombre croissant de pays. Voilà ce qu'il dit. Une pandémie de sida vaccinale s'annonce probablement. C'est ce qu'il ajoute. Donc, c'est le problème donc, de la vaccination, d'après ces termes, dans le journal Vorenbeek, qui est le problème et non le virus. Donc, ce qu'il explique, on en voit une apparition donc, de sida due à la surcharge de vaccination. Et donc, la Corée du Sud, donc depuis le début de l'année, voit son nombre de cas de mortalité exploser et avec des records, donc on va dire, voilà, ce sont des records véritablement de mortalité. Donc depuis le début de la crise du corona en Corée du Sud, le premier cas, on va dire, enregistré donc de SIDA, c'est le 20 janvier donc 2020. Non, le premier cas de décès, excusez-moi, je me trompe. C'est le 20 janvier 2020, le premier cas de décès dû au corona. Et aujourd'hui, on en compte plus de 5 000. 5 000 cas, donc, dû certainement, enfin, dû à la vaccination. Donc, cette année, seulement cette année, sur les 3 mois, il y a une explosion, c'est-à-dire que là, donc, du 20 janvier 2020 à la fin de l'année 2021, je répète, pour être bien clair, il y a 5 625 cas de décès du Covid. 5 625 cas du décès du Covid du 20 janvier 2020 à la fin 2021. Il y a quasiment 2 ans, 5 625 cas en Corée du Sud. 5 625 sur 2 ans. Sur les 3 premiers mois de l'année 2022, donc cette année, sur les 3 premiers mois, donc 5 625 sur 2 ans. Et sur les 3 premiers mois, 9 798, on va dire 9 800. C'est, on va dire, 80% de plus sur ces 3 mois que les 2 dernières années. Donc c'est une explosion radicale. Radicale. Donc voilà ce que offre le cas donc, de la Corée du Sud, qui est un État, on va dire, qui est semblable à la France, c'est-à-dire qu'il y a 52 millions d'habitants, donc ça peut aussi se passer chez nous. Voilà ce qui est assez intéressant. Donc en Corée du Sud, il y a eu 120 millions de doses de vaccins qui ont été administrées jusqu'au 24 mars 2022. 74 millions de ces doses, donc c'est ce qu'écrit le journal autrichien, hein, 74 millions de ces doses étaient fournies par Pfizer, 24 millions de ces doses par Moderna. Et donc voilà, environ 82%, on va dire 82% des Coréens ont été piqués par des injections d'ARNm. Et maintenant, 2 ans après, vous avez une explosion de cas de sida, de cas de décès. Et c'est pour ça que Mohamed Rifi a fait une vidéo qui est sur VK, sur son site VK, où il explique, voilà, mais qu'a fait le personnel soignant à l'origine? Il s'est couché et il explique en fait, parce qu'il a vécu en Espagne pendant 20 ans, donc ce sont ses propos, hein, voilà, il explique toute forme de choses, et pour le cas de la... Enfin, il explique ça à des gens qui voient, bon, je n'ai pas étudié ce qu'il a dit, mais qu'il observe en Espagne, qu'il observe en France, et d'après lui, donc le personnel soignant a gagné beaucoup d'argent en vaccinant, quitte à tuer les gens. Et aujourd'hui, ça sort. Parce que maintenant, on voit ce qu'on voit. Voilà, à travers la Corée. Mais la Corée, bon, mais ça va aussi se passer en France. À moins que ça se passe déjà, et que la presse n'en parle pas. Donc, en fait, c'est pour ça que on peut qualifier de crime le fait que le gouvernement ferme les yeux sur ces évolutions et continue à vouloir vacciner, etc. Donc proclame une loi sur la vaccination obligatoire. Donc voilà ce qui se passe au Wari sur ça. C'était le
Laurent,
cas de la
j'avais une
Nouvelle-Zélande.
question.
Oui, comment?
J'avais une question là sur l'article, si tu peux nous le remettre là, s'il te plaît, en coulisses, de Profit Catholica là, concernant justement la vaccination en Corée du Sud.
Oui.
En fait, on voit que donc on voit qu'il y a ça se passe en Corée du Sud et quand on fait nos recherches à côté, eh ben on trouve rien, on trouve que l'article de Profit Catholica. Donc ma question c'était savoir un peu tes sources par rapport à ça.
Mes sources, ça vient de la source autrichienne qui, comme je le disais tout à fait, bon, c'est un journal qui est en ligne aussi, et donc qui prend ces informations donc d'un député qui s'appelle Gerald Hauser, donc député autrichien. Il n'y a rien de...
D'accord.
Voilà, c'est très simple là-dessus. Voilà.
Ok. Non, parce que quand tu recherches, tu essaies de trouver quelque chose sur la Corée, ils n'en parlent pas de ça. Ils parlent pas de.
Ah.
Il n'y a pas de. Hein.
Oui, tout à fait. Oui. Non, mais il n'y a rien d'étonnant, quoi.
Ok.
Après, il y a le blackout
Vas-y,
à
vas-y.
Londres. On voulait parler du blackout à Londres, ce qui s'est passé, mais justement, là non plus, la presse n'en parle pas.
Bon, ben c'est bien, alors nous, on va pouvoir en parler.
Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu un blackout à Londres, voilà. Et la semaine dernière, et donc la panne s'est produite à 12h30. Donc, on dit que ça serait dû à un incendie dans un poste de distribution et à un défaut dans un câble à haute tension souterrain. C'est blablabla, blablabla, et blablabla, et blablabla, comme d'habitude. Donc, 60 pompiers sont intervenus, 38 000 londoniens ont été touchés par le blackout. Alors, ça a été rétabli, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier, bon, je vais être très bref sur ce sujet-là, c'est que, en fait, les blackouts peuvent intervenir à tout moment, et ça peut nous concerner. Et dans le pire des cas, donc, ça peut durer non pas quelques heures, mais plusieurs jours. Et là, c'est assez intéressant. Et il faut se souvenir qu'il y a un peu plus d'un mois, il y a eu un blackout qui s'est passé à Taïwan, qui est un état insulaire donc de 23 millions d'habitants, qui s'est retrouvé plusieurs heures sans, voilà, sans courant. Donc en fait, la question qu'on se posait par rapport à Taïwan, c'est est-ce qu'il s'agissait d'une attaque chinoise, parce que déjà il y avait des, comment dirais-je, l'armée chinoise, enfin, l'aviation chinoise déjà qui est entrée sur le territoire, bon, l'espace aérien donc de Taïwan, tout. Mais en tout cas, c'est qu'on voit bien, il y a des incursions dans l'espace aérien donc de Taïwan, voilà, par l'armée chinoise. Et en tout cas, ce qu'on peut bien comprendre par tout ça, ça se passe à Londres, ça se passe à Taïwan, ça se passe pour quelques heures. Et le problème, c'est qu'après, ça peut se passer plusieurs jours et ça peut se passer un peu partout. Et ça peut impacter, on va dire, sur ben, effectivement tout ce qui est réseau informatique, sur le réseau des distributions, donc des banques, etc., des automates, distributeurs, tout ce que vous voulez, enfin voilà. Et aussi sur l'alimentation. Donc, on est en train d'assister effectivement de plus en plus à, on le voit bien, à une forme de grand reset, tout à fait simplement, qui est en train de se produire. C'est-à-dire que, bon, en réalité, il y a un combat qui a lieu, on le voit bien, hein, entre entre, on va dire, deux clans. Bon, pour être très simple, on va dire le clan, pardon, de l'Alliance et les autres. Et les autres, donc, qui cherchent, je pense, à mener cette. Ça fait partie de ce que décrivait Schwab, en fait. Hein. C'était de couper les industries de l'électricité pour les faire tomber. Et c'était dans un plan donc, qui était annoncé par Schwab. En 2030, vous ne posséderez plus rien. Donc, c'est pour casser tout simplement l'économie, tous les moyens de production. En tout cas, bon, je ne sais pas ce qui est derrière Londres, je ne sais pas ce qui est derrière Taïwan, mais on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle par rapport à ce que très clairement Schwab a annoncé pour faire tomber l'industrie, il a annoncé donc des coupures d'électricité. Ça, c'est très clair. Et c'est assez intéressant, c'est le ministre, quand je parlais des Verts tout à l'heure, de l'écologie en France, qui s'est fait le relais de toutes ces théories-là. Encore une fois, les écologistes. Donc voilà, Waris, ce que je peux dire sur ça, sur le plan donc des blackouts. Et ça nous amène donc sur notre dernier sujet, si tu permets, c'est de l'inflation vers la famine. Parce qu'on en est là. Alors il faut savoir une chose, c'est que maintenant l'économie est en train de se gripper. C'est-à-dire que personne ne dit, par exemple, que l'inflation est au-delà de 25% aux États-Unis, on parle seulement de 10%. En Allemagne, cas très simple, un morceau de steak de 300 grammes est à 7 euros et il y a quelques jours, il était à 4 euros. Et vous avez aussi la presse aussi qui se plaint de la hausse de 30% du prix du papier aussi. Donc on est en train d'assister par l'inflation dont on nous cache les effets et la réalité. Donc l'inflation qui est en train de gripper tout le système économique et certainement donc on parle du blackout et l'inflation qui est là, on est en train d'assister à on va dire à un faisceau convergent pour arriver à la famine tout simplement. Ce qui était aussi mise en avant par un film de science-fiction, donc on revient au début de notre émission, qui s'appelle Soleil vert, où les gens consomment de la viande humaine. Et Soleil vert, qui est tourné en 1973, qui est tourné en 1973, se produit en 2022. Donc avant même l'escalade, on va dire, en Ukraine, l'inflation en Europe occidentale atteint déjà des niveaux records. C'est le cas, on le voit par exemple en mars 2022, ce qu'on voit. Elle s'est aggravée, donc, elle a augmenté de plus de 6% dans la plupart des pays européens par rapport à l'année précédente. Donc, on assiste maintenant à une explosion donc, extrême des prix. Ça, c'est le LIESI, qui est une lettre d'information que je conseille à beaucoup de gens, LIESI, qui est une petite lettre de 4 pages qui paraît 2 fois par mois, qui explique que l'inflation aujourd'hui donc aux États-Unis qui atteint donc des niveaux records. Voilà. Donc les impacts, eh bien, c'est ce que décrit aussi le président de la Fédération du commerce en Allemagne. Donc oui, il expose qu'en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie, les combustibles fossiles, ce qu'on appelle comme ça, non, les carburants ont augmenté de plus d'un tiers en comparaison donc un tiers par rapport à l'augmentation annuelle donc des prix. Et donc voilà ce qui est en train donc de se produire. Et c'est donc il n'y aura plus en fait ce qu'on voit. C'est qu'il déclare, ce qu'il dit, hein, ce que dit cette personne. Je reprends donc le fil. Le président de la Fédération du commerce en Allemagne dit, il n'y aura plus de tendance durable à la baisse des prix dans un premier temps. C'est-à-dire, voilà, on se dirige vers une économie qui va être inflationniste. Et jusqu'où ça va aller, ça c'est bon, ça c'est encore un autre problème. Il faut aussi souligner, pour bien comprendre la réalité, le président des agriculteurs en Allemagne. Affirme que l'approvisionnement est assuré pour un an. ce qui me paraît un peu beaucoup. Hein. Et j'ai découvert une chose, c'est tout à fait. Donc, on est en plein dans le grid reset, hein, comme je disais tout à l'heure. Le grid reset qui veut dire le grid Rex Sat, c'est-à-dire le grand roi Satan. Hein, ni plus ni moins, ça, c'est le véritable langage qui est dans le haut grade de la franc-maçonnerie. Et il y a une chose tout à fait intéressante, c'est le prix des engrais par rapport à l'inflation, qui, comme j'ai dit, l'inflation amène à la famine. Mais pourquoi? On va le voir. C'est que le prix des engrais, donc, est en forte hausse après l'invasion, notamment de l'Ukraine, parce qu'on explique comme ça, mais qui n'est pas du tout le cas, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, en automne dernier, la seule hausse des prix du gaz, par exemple, faisait grimper, la seule hausse des prix du gaz faisait grimper les coûts de production des engrais. Mais la nouvelle situation entraîne désormais une pénurie de base telles que le potassium, la potasse, pardon, l'ammoniac et l'urée, indispensables à la production de différents engrais. Et ce que j'ai trouvé, c'est assez incroyable. C'est que c'est Rabobank qui dit ça, qui indiquait que la Russie et la Biélorussie représentaient ensemble plus de 40% des importations mondiales de potasse. En outre, la Russie contribue à hauteur de 22%, donc 40%, 22% au commerce mondial de l'ammoniac et 14% aux exportations d'urée. C'est-à-dire tout ce qui sert à faire des engrais est entre les mains de la Russie, on va dire, en majorité relative, puisqu'on parle de 40% et 22%, etc. C'est-à-dire que on nous avait expliqué que la Russie avait en quelque sorte les robinets des gazoducs, mais elle a aussi les moyens, surtout, de faire de l'agriculture intensive. Donc voilà, et on voit aussi qu'il y a que cette agriculture intensive va être certainement menacé par le jeu donc de l'inflation. Et le cas le plus concret qu'on trouve, c'est le Brésil qui est le premier exportateur de soja, c'est pas la Chine, c'est le Brésil, le premier exportateur chinois, a reçu la moitié de ses importations de potasse de Biélorussie et de Russie. Donc on voit bien que en termes d'engrais, le Brésil qui est le plus grand pays d'Amérique du Sud est dépendant donc à ce niveau-là en tout cas, de la Russie. Donc voilà ce qui est très, très intéressant d'observer Wari. Donc pour moi, en tout cas, j'en ai fini pour tous ces thèmes de la semaine. Donc en tout cas, le sujet principal sur lequel j'insiste, je te laisse la parole, c'est les histoires de tunnels qui sont la continuité donc des grottes, ça fait simplement, et qu'on nous a présenté de manière mensongère. Mais pour ça, il faut lire donc Les géants et l'Atlantide. Bon, je présente un peu mes livres et Extraterrestres et messagers de Noël, c'est très important pour bien comprendre que les extraterrestres ne sont que des démons et rien de plus. Et au même titre que les scientifiques qui ont été assassinés parce qu'ils parlent d'énergie libre, ceux qui ont bien compris que cette élite mais ça se fait depuis plus de 1000 ans, a des liens avec, on va dire, le monde interdimensionnel. Voilà. Les gens qui révèlent ça sont assassinés, comme le scientifique, le géologue que j'ai cité tout à l'heure, Phil Schneider. Donc voilà, Wari, il est minuit.
Ouais, c'est l'heure pour nous de clôturer. Juste pour rebondir sur le dernier thème que tu as abordé là, il existe un plan alimentaire mondial aujourd'hui et qui dépend essentiellement ben de 50% du blé acheté par justement le plan alimentaire mondial est acheté en Ukraine. Et du coup, bah, aujourd'hui, bah, ce plan alimentaire mondial dont dépend bah, les pays, une quarantaine de pays pauvres dans le monde, bah, aujourd'hui, les rations comment dirais-je, bah, il semble que justement, du fait de la guerre, bah, ils ne peuvent plus se fournir de ce blé ukrainien. Et du coup, bah, les rations qui sont offertes habituellement à ces pays, eh bah, elles ne sont plus offertes. Voilà, ce sont les conséquences du conflit en Ukraine.
Oui.
Donc, ce qui va nous emmener vers effectivement
Une
une
période de
crise
famine.
alimentaire. Voilà, c'est
Oui.
ça. Bon, mon cher Laurent, ben merci à toi encore une
Absolument.
fois.
Comment?
Merci à toi pour cette chronique et ces
Merci,
analyses.
Wari. Je t'en prie, c'est très intéressant. Je te remercie. Merci
Et
de ta
puis,
patience.
je remercie tous ceux et celles qui étaient là ce soir. Nous étions à peu près 800. Voilà. Donc, Laurent, je te dis bonne fin de soirée et je vous donne à toutes et à tous rendez-vous bah, dimanche prochain pour une nouvelle chronique.
Voilà.
Salut,
Et le plus
Laurent.
grand soutien à la Russie contre l'État khazar.
Ouais, tout à fait.
À bientôt, Harry. Merci et bonne continuité pour le Ramadan.
Merci à toi, Laurent. Merci.
Au revoir, Harry. Ciao.
Au revoir. Voilà, merci à tous. Donc, je vous dis à toutes et à tous bonne fin de soirée. Saha sorkom et bonne semaine à tous.
شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا أحد يا نعمة يا أحد يا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا شريك لك لبيك يا محفظ يا حليم يا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.